Le Gabon est visiblement maintenant la prochaine cible d'un coup d'État, mais visiblement, évidemment, pas un coup d'État populaire. Encore une fois, les médias comme France 24 ou RFI se placent en tant que porte-voix des rebelles, des opposants, des terroristes, etc. Le Gabon ne fait donc pas exception. Le média français France 24 ne se cache même plus. Les appels au coup d'État à l'insurrection passent sur cette antenne normalement. Ce média a interviewé l'opposant farouche donc du Gabon, Jean Ping, qui a déjà montré qu'il est entre les mains de la France. Invité le lundi 28 février, Jean Ping a appelé de fait à fomenter un coup d'État au Gabon et évoqué explicitement le spectre d'une guerre civile qu'il pourrait susciter. À ce stade, malgré la gravité de telles déclarations, les autorités gabonaises n'ont pas réagi, mais dans les rangs de l'opposition, les principaux leaders tentent déjà de se désolidariser de Jean Ping. Ces déclarations ont choqué une grande majorité de Gabonais. « Je suis donc en train de tracer la ligne à suivre et mes partisans sont là. Je les vois tous les jours, il suffit de claquer des doigts pour qu'ils avancent dans une direction ou dans une autre. » N'a pas craint de déclarer l'ancien candidat Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016 qui n'a cesse depuis 6 ans de ruminer sa défaite avant d'ajouter qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Nous accéderons au pouvoir avant d'une manière ou d'une autre, laissant ainsi planer le spectre d'une guerre civile. Disparu des écrans radars durant plusieurs mois, des sources évoquent des problèmes de santé dus à son âge avancé, Jean Ping tente de récupérer à 1 an de la prochaine présidentielle le leadership de l'opposition. Pour lui, c'est donc une manière de dire aux autres leaders de l'opposition qu'il est encore là, qu'il est encore au centre du jeu et qu'il faut compter sur lui et se rallier à lui. Et qu'il a donc encore un pouvoir de nuisance dans le pays. Ce pouvoir de nuisance, Jean Ping en a usé ce lundi. Ses déclarations, et il le sait, ont provoqué une gêne du côté de l'opposition. Il aurait mieux valu combattre Ali Bongo Ondimba en évoquant son bilan. Ça aurait été beaucoup plus efficace, déplore un député. Les démocrates, le parti de Guy Zouba Daba, plutôt que de vouloir réduire le Gabon à feu et à sang. Parler de coup d'État, de guerre civile, n'est pas la bonne façon d'attirer les sympathies au sein du pays. Les opposants apparaissent maintenant comme des extrémistes, prêts à mettre le pays à feu et à sang pour prendre le pouvoir, alors que les vrais démocrates sont là en paix, peste de son côté un haut cadre de l'Union nationale. Le pire, c'est que des propos aussi graves passent de manière normale à l'antenne d'une chaîne de télé française. Si les Gabonais veulent un changement dans leur pays, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais ce que les Gabonais savent également, c'est qu'ils ne veulent certainement pas d'une guerre civile en refaisant un remake de la Côte d'Ivoire en 2011. Actuellement, en Afrique, les peuples récupèrent de plus en plus leur souveraineté et leur pouvoir. Depuis quelques années maintenant, le gouvernement gabonais a montré une certaine hostilité envers la France en se tournant un peu plus du côté de la Russie et de la Chine. Et la dernière manœuvre de Libreville, c'est qu'il a accepté d'adhérer au Commonwealth, et ce, en pleine crise entre la Grande-Bretagne et la France concernant le Brexit et les licences de pêche. Un message clair adressé directement à l'Élysée. De plus, les géants de l'énergie comme Veolia ou EEG se sont vus littéralement éjectés du pays au profit d'une société russe. Ce qui est clair, c'est que depuis quelques années, le Gabon est dans le collimateur et, suite à la nouvelle politique occidentale de recolonisation de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée, le Gabon ne fait donc pas exception. Surtout qu'il est le voisin de la Guinée équatoriale et du Congo Brazza. Il ne faut pas oublier non plus un point assez important. Des centaines de militaires français et américains sont toujours présents au Gabon. Ils s'étaient multipliés en prétextant des troubles et même une pseudo-guerre civile suite à l'élection présidentielle en 2019 en République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'effectivement, si l'opposant Jean Ping annonce ouvertement ses intentions sur une chaîne française comme cela, c'est qu'il y a vraiment un plan qui se met en place contre le Gabon. Les Gabonais ne doivent en aucun cas perdre leur souveraineté et permettre à des agents français de déstabiliser le pays pour pouvoir encore une fois le transformer en une base militaire grandeur nature, leur permettant de lancer des autres plans de déstabilisation contre les voisins, notamment Équato-Guinéa, qui reste l'un des pays qui a capoté les plans d'invasion du golfe de Guinée en faisant venir les navires de guerre russes et iraniens dans la région. Au Mali, l'avancée des FAMA provoque un vent énorme de panique chez les ennemis du Mali. Les groupes terroristes sont en débandade depuis plusieurs jours, comme le témoigne l'information relative à la fuite de plusieurs cadres proches d'Iyad Ghali vers la Mauritanie, car même en Algérie, ils sont en danger. Cet état de fait donc est consécutif à la multiplication des opérations offensives des FAMA, de plus en plus violentes contre les groupes armés terroristes, comme l'on pouvait s'en apercevoir à travers la destruction de plusieurs bases terroristes au centre et au nord du Mali. La présence présumée de soldats russes est également à prendre en compte dans cette désorganisation des groupes terroristes et selon certaines sources proches des groupes armés du Nord, des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont été repérés en Mauritanie. L'information aurait fuité au niveau des services de renseignement de la Mauritanie. Les individus concernés par cette fuite de la région de Tombouctou pour la Mauritanie sont Mohamed Ould Abdel Rahman, Aknifer Ould Ahmed, Hamada Ould Hamed et Hamza Al-Shankiti. L'arrivée des soldats russes et les nombreux autres partenaires également que le Mali a pu trouver au niveau international au moment où les sanctions sont tombées sur le Mali, il est clair que la donne a entièrement changé sur le terrain. De plus, Bamako continue dans sa posture de non-recul face à la France et ses alliés occidentaux. La France ayant décidé donc de retirer ses troupes du Mali, comme ils le disent, alors que c'est le Mali donc, qui les a mis dehors, vient encore de rappeler maintenant ses coopérants du pays, après avoir vu son ambassadeur chassé par Bamako. Des réactions qui de nos jours suscitent beaucoup d'interrogations quant à la continuité donc, des relations entre les deux pays. Cette continuité est terminée depuis belle lurette. Ni la France ni le Mali ne sont visiblement prêts à subir des humiliations, même si la France ne manque pas une seule occasion de se tourner au ridicule aux yeux du monde. Avec le duo Assimi Goïta et Choguel Kokalamaga, le Mali semble être résolu à bannir des pratiques humiliantes qui ont tout le temps émaillé les rapports liés en Bamako à Paris. En clair, le gouvernement malien pousse la France de Macron à changer de politique et de stratégie pour la pérennité des liens existants. Ainsi, la France, qui envisage de s'imposer, vient de déclarer à tous ses coopérants civils comme militaires de rentrer en France. L'annonce est venue du président de la République française Emmanuel Macron. Et par coopérant, il faudra comprendre qu'il s'agit donc des citoyens français civils et militaires qui, entre guillemets, aident le Mali dans plusieurs domaines. Ce sont des gens qui sont au Mali pour conseiller ou accomplir d'autres fonctions au niveau des différents départements ministériels au sein du chef de l'état-major des armées, en plus d'autres services du pays. Deux semaines après le retrait des troupes de Barkhane et de Takuba du sol malien, le chef d'État français a décidé donc de retirer les coopérants français des ministères maliens. Ces coopérants sont ces petites mains invisibles qui s'ingèrent dans les affaires intérieures du pays sous la bannière d'une aide, nous explique une source. Selon les informations, Emmanuel Macron donc a fait parvenir la nouvelle aux autorités maliennes à travers le chargé d'affaires de Paris au Mali, c'est-à-dire à travers le remplaçant de Joël Meyer, l'ambassadeur de France au Mali, qui a été chassé par les autorités. Dans l'après-midi du lundi 28 février, le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Mali, en l'occurrence Laurent Favier, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop. C'était pour informer les autorités maliennes de la volonté d'Emmanuel Macron de retirer tous les coopérants français en fonction dans les différents ministères maliens, comme au sein de l'état-major, nous annonce la même source. Même si nous ne connaissons pas avec exactitude la réaction des autorités à la tête du pays pour le moment, il est plus que possible que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement, qui ont poussé ses coopérants à quitter le Mali, tout de suite après que Bamako ait demandé aux troupes françaises et de Takuba de quitter le Mali sans délai et que la France a refusé, prétextant la sécurité des militaires français. En retour, ce sont les coopérants donc, qui ont été forcés de quitter le pays dans le plus bref délai. Bamako est en train de couper l'herbe sous le pied de la France pour l'empêcher de vouloir mettre en place des représailles contre le Mali et son gouvernement. Car il est clair que les actuels dirigeants maliens sont terriblement dans le collimateur. Et Assimi Goïta en avait également fait les frais à la mosquée en juillet 2020 lorsque quelqu'un avait tenté de l'assassiner. On se rappelle encore de la réponse immédiate que les autorités ont bien voulu réserver à l'annonce du retrait coordonné des troupes de Barkhane et de Takuba. La nouvelle lancée depuis l'Elysée a été favorablement répondue par Bamako. Le gouvernement a appris la décision unilatérale du retrait de Barkhane et de Takuba du Mali. Le gouvernement du Mali donc demande à la France de se retirer sans délai. Donc, et je répète, le gouvernement a demandé Donc, le retrait sans délai de Barkhane et de Takuba du territoire national du Mali a annoncé le ministre porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, donc choisi pour lire le communiqué fait pour la circonstance. Ainsi, l'analyse de cette escalade diplomatique nous amène donc à soutenir que le Mali n'est plus du tout d'accord avec la France et ce n'est pas un fait nouveau. En effet, il est tout de même important de rappeler que cette dernière a toujours eu l'audace de décider en lieu et place des décideurs du Mali ce qui est bon ou mauvais pour les Maliens. Ainsi, peut-on le dire sans se tromper, les autorités de la transition se seraient inscrites dans une logique de ne plus se laisser faire ou être manipulées, comme ça a été le cas des ex-présidents maliens et de leur gouvernement. La rupture est bel et bien là, donc le pays souverain, s'est retrouvé dans un terrain militaire avec de nouveaux partenaires et les résultats sont là. Même la ministre française des armées, Florence Parly, n'a pas pu le cacher en essayant tout de même maladroitement de s'accaparer les mérites du renforcement de l'armée malienne en le mettant sur le compte des efforts de la présence française. Mais cela n'a pas fonctionné. L'Élysée n'est plus du tout en position de pouvoir manipuler le Mali, même à travers ses fameux coopérants. Le Mali fait ses propres choix pour son propre bien. Et non pour le bien des Occidentaux. Le Mozambique et Madagascar, deux pays extrêmement stratégiques à tout niveau, sont farouchement dans le collimateur de la France et de ses alliés occidentaux, mais la résistance est beaucoup plus forte que prévu. Avec le conflit que l'Occident a décidé de lancer contre la Russie, les chancelleries européennes et l'ambassade américaine exercent une pression sur le gouvernement malgache afin qu'il se range aux côtés de la coalition internationale contre la Russie. On n'a jamais vu ça. Tous les ambassadeurs européens à Antananarivo, plus l'Américain, le Sud-Coréen, le Japonais et le Norvégien, tous ont adressé un message commun au ministre malgache des Affaires étrangères pour lui demander de condamner haut et fort l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous ne pouvez pas rester neutre face à la violation du droit international et face au massacre des innocents, tel est le message adressé à Madagascar. Ces diplomates veulent que Madagascar donc soutienne une résolution condamnant la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies. À peine ce message était-il reçu que l'ambassadeur russe s'est présenté au ministère des Affaires étrangères. Il a expliqué le bien fondé, selon lui, de l'opération militaire spéciale lancée par la Russie. Donc l'ambassadeur Andrew Andreev a dénoncé la campagne anti-russe menée par les Occidentaux. Voilà Madagascar en position bien inconfortable dans un premier temps. Certains commentaires de journaux Atana comme l'Express du Madagascar s'insurgent contre l'ingérence européenne et suggèrent que Madagascar en profite pour mettre en avant sa souveraineté sur les îles éparses. Les ambassadeurs des mêmes pays se mobilisent également au Mozambique, mais sans plus de succès. Au Mozambique, comme à Madagascar, les Occidentaux tombent donc sur un os. Le gouvernement du Mozambique donc, est issu de Frelimo, le mouvement de guérilla qui a gagné en 1975 la guerre d'indépendance, avec le soutien de Moscou. À l'époque, c'était l'Union soviétique, mais la filiation est restée forte. Les Mozambicains ont accueilli les soldats russes pour lutter contre le terrorisme de Daesh au début de l'insurrection des éléments de Daesh au nord du pays en 2017. L'armée mozambicaine et ses alliés, composés donc des militaires de la SATCE, du Rwanda et des Russes, ont assez bien réussi leur mission, ce qui n'était visiblement pas prévu au programme des Occidentaux. Les Mozambicains ne veulent donc pas prendre position, suivant donc en cela la prudence de l'Union africaine qui appelle à la paix, sans pour autant condamner la Russie et encore moins soutenir les sanctions contre Poutine. Pour l'Afrique, cette guerre n'est pas la sienne et en plus, les pays d'Afrique ont d'autres chats à fouetter. Avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment en Afrique, aucun pays occidental ne prend réellement parti. Au contraire, il lance des régimes de sanctions, des embargos sur les armes, etc., etc. Mais le Mozambique et Madagascar restent tout de même deux pays très stratégiques. Le Mozambique est important pour la France et les États-Unis, mais surtout pour la France, car c'est un hub gazier. Et suite à l'allocution du président français Emmanuel Macron de ce mercredi 2 mars, il est clair que la France cherche, depuis quelques années maintenant, à vouloir contourner le gaz russe et d'aller le chercher chez les pays comme le Mozambique. Pour rappel de la petite histoire, le géant français Total avait laissé tomber son grand projet gazier et a quitté ce pays pour mettre la pression à Maputo pour que le gouvernement mozambicain accepte la venue des militaires français et même américains sur son sol afin de protéger évidemment l'exploitation du gaz et non pour lutter contre les terroristes de Daesh. Mais récemment, en vue que Maputo a bien montré qu'il voulait régler le problème du terrorisme de manière régionale et avec l'aide des Russes et non avec l'aide des Européens. Le PDG de Total est finalement retourné au Mozambique en annonçant que la situation est sécurisée et que la multinationale française est également prête à investir dans le secteur de l'éducation, pour évidemment reprendre le projet gazier et continuer de lancer quelques miettes au gouvernement mozambicain. Rendez-vous compte, un projet qui a coûté 44 milliards de dollars d'investissement pour la multinationale et Maputo ne devrait toucher que la somme d'un peu plus de 350 millions de dollars par an. Une maigre compensation donc comparée à l'investissement de départ et surtout ce que devrait en bénéficier la multinationale, l'État français et même toute l'Europe. En bref, les pays européens tentent de contourner le gaz russe et c'est au Moyen-Orient et en Afrique qu'ils comptent aller le pomper. Et Madagascar est lié au Mozambique, permettant donc à Paris de bénéficier d'un monopole total sur cette partie de l'océan Indien grâce aux îles Éparses, ce que l'Élysée refuse toujours catégoriquement de rendre à Madagascar, malgré que la communauté internationale a reconnu la souveraineté de Madagascar sur ces îles. Ce qui fait qu'en retour, Madagascar a pactisé avec Moscou et également avec Téhéran pour leur donner accès aux navires de guerre dans cette partie de l'océan Indien et donc briser le monopole que cherchaient la France et les États-Unis. Ce qui n'est pas nécessaire de préciser que cela n'a pas plu du tout à la France. D'où les nombreuses pressions que subit Madagascar en ce moment et le Mozambique, malgré que les avancées de Maputo dans la lutte contre le terrorisme est considérable, mais vu la situation et l'urgence dans laquelle se trouvent la France et ses alliés, il est clair qu'il faudra s'attendre à une montée du terrorisme dans cette partie de l'Afrique, car la France est obligée de donc sécuriser ses investissements comme elle l'a fait dans le Sahel avec une présence massive de militaires. Mais avec le Mozambique et Madagascar, Paris et ses alliés sont réellement tombés sur un os extrêmement résistant.
Au Ghana comme en Côte d'Ivoire, la question de la transformation du cacao se pose avec acuité. À côté des investissements étrangers que recherchent les autorités dans ce segment, plusieurs entreprises locales sont actives dans la fabrication de produits dérivés. Au Ghana, la West African Mills Company a annoncé un plan d'investissement de 5 millions de dollars dans la mise à niveau de ses installations de traitement de cacao basées dans la zone industrielle d'Efia à Takarodi dans l'ouest du pays. D'après Franck Bednar, directeur général de l'entreprise, l'enveloppe permettra de procéder à des achats de nouveaux équipements pour moderniser ses unités de production de liqué de cacao et d'extraction de beurre de cacao. En outre, la compagnie compte effectuer des travaux de réhabilitation et de réparation au niveau de sa ligne de production de beurre de cacao par presse hydraulique afin de la rendre pleinement opérationnelle et créer 120 emplois. Dans le cadre de ce projet, la compagnie entend faire appel à l'expertise de plusieurs fabricants mondiaux d'équipements comme la Suisse Bühler. Avec un tel investissement, WAMCO entend accroître sa productivité et par ricochet le volume de son offre en produits dérivés du cacao ainsi que de ses exportations qui sont destinées principalement à l'Union européenne et aux États-Unis. Le Zimbabwe va porter ses revenus miniers annuels à 12 milliards de dollars dès 2023, dont 3 milliards de dollars grâce au platine. Le projet de platine d'Arwendal, détenu à 50% par Kovimba Mining, doit donc jouer un rôle important, mais son propriétaire a du mal à trouver des fonds pour le développer. La compagnie minière Impala Platinum, basée à Johannesburg, aurait rompu les discussions portant sur un éventuel accord de partenariat avec la compagnie publique zimbabwéenne Kovimba Mining House. C'est l'exigence par Impala d'une due diligence sur Kovimba qui a bloqué les négociations, apprend-on de sources proches du dossier cité par Bloomberg. Créé en 2020 pour gérer des actifs miniers détenus par l'État, Kovimba est détenu à 65% par ce dernier à travers son fonds souverain et son fonds de pension. Cependant, l'identité des propriétaires de Ziva Ressources, déteneurs des 35% d'intérêt restants, n'est pas connue, alimentant les suspicions concernant un lien entre la société et le mania local Kudakwashe Tagwiri, proche des cercles du pouvoir à Harare. « Le président ougandais Yoweri Museveni et le vice-président de la Guinée équatoriale en visite, Teodoro Gyema Mangue, ont appelé à l'unité africaine pour faire face aux défis auxquels le continent est confronté. Selon un communiqué du palais d'État ougandais publié mardi à Kampala, les deux dirigeants se sont entretenus au palais d'État Entebbe, à 40 km au sud de Kampala, la capitale, et ont déclaré que les problèmes sécuritaires et socio-économiques pouvaient être résolus si les pays travaillaient ensemble. Les changements mondiaux actuels et l'instabilité dans certaines parties d'Afrique constituent un défi pour le continent, a fait remarquer Gyema Mangue. Le vice-président équato-guinéen est en Ouganda pour une visite officielle de 2 jours. Il a remis un message spécial à M. Museveni de la part de son homologue de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bassogo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, compte lever un montant de 30 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 15 millions de dollars américains, au cours de la séance d'adjudication prévue au 1er mars 2022. D'après le communiqué du ministère des Finances, l'échéance de remboursement de ces opérations financières est de 3 mois. Dans ces conditions, les soumissionnaires seront remboursés le 2 juin 2022 dans les conditions fixées par la loi. Le ministre des Finances indique également qu'il se réserve le droit d'accepter un montant inférieur ou le montant annoncé si les conditions du marché sont jugées satisfaisantes. Par ailleurs, il faut souligner que le marché financier local est de plus en plus attractif avec les opérations de bons du Trésor indexés, mais aussi les obligations du Trésor indexées.